Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Qari'a. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 4 Esfand, 1401 du calendrier iranien, 23 février 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Les ennemis cherchent à semer le désespoir en Iran, a déclaré le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. Les ennemis cherchent à semer le désespoir en Iran, a déclaré le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. L'Iran condamne le raid sauvage de l'armée israélienne à Naplouse. Partenariat sino-russe, les États-Unis sont incapables de gérer une guerre sur deux fronts. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a déclaré que créer le désespoir en Iran faisait partie des principales politiques des ennemis du pays. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, l'a souligné lors d'une audience accordée au président et aux membres de l'Assemblée des experts ce jeudi matin 23 février. L'honorable Ayatollah Khamenei a déclaré que certaines inimitiés envers la République islamique d'Iran sont une inimitié politique, ajoutant que, par exemple, la République islamique d'Iran adopte une position sur la question palestinienne et les puissances mondiales ont une autre position, et cela crée de l'inimitié de la part des ennemis. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Le ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné le dernier massacre israélien des Palestiniens dans la ville occupée de Naplouse, en Cisjordanie. Les forces israéliennes ont lancé un raid contre Naplouse le mercredi 22 février dans la matinée, qui a fait au moins 11 morts et 102 blessés côté palestinien, dont beaucoup se trouvent dans un état critique. En outre, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné le raid sauvage et terroriste des forces du régime israélien sur la ville de Naplouse, en Cisjordanie, qui a causé la mort d'au moins 11 Palestiniens et plus de 100 personnes. Nasser Kanani a appelé mercredi 22 février la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour mettre fin au génocide des Palestiniens par le régime sioniste et en allusion au crime du régime d'apartheid d'Israël en Cisjordanie et au meurtre de Palestiniens, y compris des enfants, des femmes et des personnes âgées, Nasser Kanani a qualifié l'agression d'inacceptable au milieu du silence et de l'inaction des organismes internationaux responsables et des soi-disant défenseurs des droits de l'homme en Occident. Saluant la résistance courageuse des jeunes Palestiniens dans les territoires occupés de la Palestine, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a appelé les pays musulmans à s'unir et à adopter une position coordonnée pour soutenir la nation palestinienne et sa résistance légitime contre les mesures inhumaines et terroristes du régime d'apartheid. Les affrontements sanglants de ce mercredi ont éclaté après que les forces israéliennes ont pris d'assaut Naplouse avec des dizaines de véhicules blindés et bloqué toutes les entrées de la ville. La résistance palestinienne à Gaza a lancé ce jeudi 23 février à l'aube une salve de roquettes vers les colonies autour de Gaza. Aucun des groupes de résistance n'a toutefois encore revendiqué cette attaque. Plusieurs roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza assiégée vers la partie sud des territoires occupés en 1948, quelques heures après le violent raid du régime israélien contre Naplouse en Cisjordanie occupée. Dans un communiqué, l'armée israélienne a affirmé que les forces de la résistance palestinienne avaient lancé 6 roquettes depuis la bande de Gaza vers les villes occupées par Israël de Sderot et d'Ashkelon. Les sirènes d'alarme ont aussitôt retenti dans les deux villes. L'armée israélienne prétend que 5 des roquettes avaient été interceptées par les systèmes de défense aérienne d'Israël, ajoutant qu'une autre avait été atterrie dans une zone inhabitée. Aucune victime ou dégât n'a été signalé pour le moment. Des témoins palestiniens ont déclaré à l'agence France-Presse avoir vu au moins 8 roquettes. Aucun groupe de résistance palestinien n'a encore revendiqué ces attaques à la roquette. La Chine a de nombreuses raisons d'approfondir ses liens avec la Russie sur fond de la recrudescence des provocations américaines contre les deux puissances, ont déclaré des observateurs internationaux à l'agence Sputnik, exprimant des doutes sur la capacité de Washington à mener une guerre chaude simultanément contre Moscou et Pékin. Ces dernières années, les relations entre la Chine et la Russie se sont développées de façon régulière et sont maintenant entrées dans une nouvelle étape de leur coopération globale et partenariat stratégique, a noté Yang Mian, professeur des relations internationales à l'Université de communication de Chine à Pékin. La Chine et la Russie ont toujours convenu au développement de leurs relations basées sur les principes de non-alignement, de non-confrontation et de non-ciblage de tiers. En tant que puissance indépendante, la Chine et la Russie défendent le maintien de la paix et de la sécurité internationale, ainsi que l'indépendance et la souveraineté de tous les pays du monde. Le maintien des relations stables et amicales contribue au développement à long terme des deux pays et du monde entier. Cela est particulièrement vrai dans la situation difficile actuelle du monde et le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine, a-t-il poursuivi. Le professeur chinois a souligné que les États-Unis formaient des groupes de leurs partisans afin de forcer la Chine à changer sa position concernant le conflit ukrainien. Pour sa part, Pékin n'est pas enclin à choisir son camp, mais appelle à un règlement de paix et promeut les négociations. Et enfin, le Premier ministre malien aura une tête-à-tête avec le président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré. Choguel Maïga effectue ce jeudi 23 février une visite d'amitié et de travail au Burkina Faso, rapporte plusieurs sources. Le Premier ministre malien sera accompagné d'une forte délégation gouvernementale composée de 7 ministres. Au cours de cette visite officielle, dont la durée n'a pas été précisée, Maïga parlera de coopération bilatérale et de la situation sécuritaire qui prévaut dans les deux pays. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter notre commentaire politique. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a déclaré que créer le désespoir en Iran faisait partie des principales politiques des ennemis du pays. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, l'a souligné lors d'une audience accordée au président et aux membres de l'Assemblée des experts ce jeudi matin, 23 février. L'honorable Ayatollah Khamenei a déclaré que certaines inimitiés envers la République islamique d'Iran sont une inimitié politique, ajoutant, par exemple, la République islamique d'Iran adopte une position sur la question palestinienne et les puissances mondiales ont une autre position, et cela crée leur inimitié. Ce ne sont pas pourtant très importants. Ce qui est le plus important, c'est l'inimitié intrinsèque. La nature de la République islamique d'Iran crée cette inimitié, a ajouté le leader de la révolution islamique. L'honorable Ayatollah Khamenei a souligné que certains pays occidentaux utilisent la démocratie libérale pour dominer le monde, mais que la République islamique d'Iran apporte la démocratie et la liberté avec la religion, et une démocratie fondée sur la religion conduit à l'hostilité parce qu'elle déjoue les conspirations des ennemis. Le leader de la révolution islamique a souligné ensuite le remarquable pouvoir populaire de l'ordre islamique, qui, selon lui, est unique ou rare dans le monde. L'honorable Ayatollah Khamenei a décrit l'énorme participation du peuple iranien au rassemblement marquant le 44e anniversaire de la victoire de la révolution islamique le 11 février comme un autre signe du soutien de la nation à l'ordre de la République islamique d'Iran. Le leader de la révolution islamique a ainsi réitéré que le fort soutien populaire à la République islamique d'Iran est un atout national, exhortant tous à travailler sans relâche pour le préserver et l'accroître.
Bonjour à tous, bienvenue ici à partir de la capitale de Téhéran, en Iran. Alors, aujourd'hui, le sujet de la Palestine, des occupants et du grand silence de l'ONU. Pour ce faire, nous avons donc préparé un reportage et par la suite, nous ferons venir nos invités. Donc, dans un premier temps, je vous propose notre reportage.
La déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU approuvée lundi 20 février par les 15 membres du Conseil, y compris les États-Unis, a également souligné ce qu'il a appelé l'obligation de l'autorité palestinienne AAP de renoncer et de faire face au terrorisme. La mesure symbolique est venue en réponse à une décision du cabinet israélien au début du mois d'autoriser des milliers d'unités de colonisation en Cisjordanie occupée et de légaliser rétroactivement les avant-postes de colonies construits illégalement. La semaine dernière, le Conseil de sécurité semblait prêt à voter sur un projet de résolution appelant à la fin de l'expansion des colonies israéliennes. Mais des informations de plusieurs organes de presse américains et israéliens, citant des sources diplomatiques, ont déclaré que l'autorité palestinienne avait accepté d'abandonner sa poursuite du vote sous la pression du gouvernement américain.
Nous revoilà donc sur les plateaux. Donc nous avons fait venir d'abord nos invités. Donc notre invité étant M. Eli Hachem, juriste international. Bonjour monsieur.
Bonjour, c'est Eli Hachem.
Oh, Eli Hachem, excusez-moi. Alors bonjour madame, notre deuxième invité étant madame Aïssar Midani. Bonjour madame Midani, toujours un plaisir de vous avoir également sur nos plateaux en tant qu'experte, notamment du Moyen-Orient.
Bonjour à vous, bonjour à... et merci pour l'invitation, bonjour à monsieur Hachem.
Alors, ces derniers jours ont été extrêmement importants pour la Palestine, enfin c'est ce qu'on croyait, parce que l'ONU était censée prendre une résolution qui se montrait extrêmement optimiste pour la cause palestinienne, et finalement, eh bien, c'est un caillou qui est tombé dans l'eau de la mare. Qu'est-ce que vous en pensez, madame Midani? Est-ce que vous pensez que voilà, l'ONU n'a fait que donner une fausse résolution concernant la situation palestinienne, demandant à ce que les Palestiniens ne suragissent pas, pourtant face à des occupants qui agissent de manière contre l'humanité, contre les droits de l'homme? Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette résolution de l'ONU?
En fait, d'abord, l'ONU, depuis le temps où les Israéliens commettent des crimes absolument génocidaires, des crimes contre l'humanité, des crimes contre le droit humain en Palestine, n'a jamais fait de déclaration à part du bout des lèvres, et ce sont des déclarations de principe qui ne sont suivies d'aucun effet. Alors on attend aujourd'hui, avec la montée des violences israéliennes contre le peuple palestinien, aussi bien dans les prisons comme violation totale d'ailleurs des droits des détenus, contre les habitants de toute la Palestine, en fait, non seulement au niveau des violations de domicile, au niveau des arrestations, au niveau des tueries, qui sont vraiment des tueries, des exécutions sommaires des jeunes. N'importe où d'ailleurs, quand ils s'opposent à cette violation de domicile, de violation de quartier, violation de leur propre intimité chez eux, et donc la maltraitance de toutes les familles. Quand il y a aussi les Israéliens s'attaquent aux agricultures, à la culture, à tout ce qui aussi qui permet aux Palestiniens de vivre, donc toutes les sources de vie. Et il faut quand même rappeler qu'ils s'attaquent aux pêcheurs, ils s'attaquent aux... ils interdisent, même à Gaza, alors que ce sont des côtes palestiniennes, ils leur interdisent de pêcher, ils détruisent les bateaux des pêcheurs. Tout ceci, ça va dans le sens d'un génocide à petit feu qui se poursuit avec des massacres de temps en temps. assez violent et assez incroyable, et l'ONU ne se contente de petites déclarations du bout des lèvres, dans laquelle d'ailleurs elle fait tout de suite suite au fait que les Palestiniens commettent des actes terroristes, comme si s'opposer à la violation de son domicile et la destruction de ses cultures et la destruction de ses champs et la tuerie des enfants. Il faut quand même rappeler que dans les geôles israéliennes, il y a des femmes et des enfants qui sont maltraités, et on arrête les enfants de 13 ans, de 14 ans, même des jeunes enfants de 7 ans. L'objectif, c'est de créer une peur systématique, et le terrorisme de l'État israélien n'a fait l'objet d'aucune déclaration de l'ONU et d'aucune dénonciation.
Merci, Mme Midani. Merci, Mme Midani. On va revenir sur la question des prisons. Notre deuxième invitant étant un juriste international. Bonjour, Monsieur Hatem. Encore une fois, désolé pour mon erreur de nom. Alors, vous-même, quand Mme Midani et quand l'actualité parle des prisons israéliennes et qu'on dit que les droits de l'homme ne sont pas respectés, est-ce que vous pouvez nous dire les différents actes à l'encontre donc des prisonniers palestiniens, comme l'a dit Mme Midani, de différents âges, qu'est-ce qu'ils doivent supporter face à la prison israélienne quand ils se font arrêter, qu'on voit les images sur Twitter, sur les réseaux sociaux et qu'on voit ces arrestations. Ils font face à quoi dans ces prisons ?
Bien, merci pour votre invitation. Mes salutations à Mme Midani. Alors, il faut savoir une chose. On ne peut pas parler de prisonnier parce que un prisonnier, c'est quelqu'un qui a commis un acte délictuel à l'encontre d'une législation. Or, dans le cas de la Palestine, nous avons un pays, un État, la Palestine, qui est occupé par une entité qui est complètement artificielle, c'est l'entité sioniste, qui a établi un État sur un territoire, sur un pays qui existe déjà et qui exerce sur la population, sur les autochtones, une politique, comme l'a très bien souligné Mme Midani, elle a parlé d'un génocide progressif, moi je dirais une politique d'extermination progressive et lente. C'est ce qu'ont fait les nazis avec les communautés juives en Europe. Les Israéliens sont en train de faire la même chose avec les autochtones. Alors, il y a des arrestations complètement illégales de ces mouvements de résistance nationale qui sont en train de travailler pour la libération de leur pays. Et il faut le rappeler, c'est dans les normes et les principes du droit international, le non-recours à la violence, il y a une exception à ce principe qui est celui de l'usage de la force dans l'objectif de la libération nationale. En France, les Français se sont opposés aux nazis avec un mouvement de résistance nationale, mais là, pour la terminologie, pour les nazis, le mouvement de résistance nationale français était considéré comme étant un mouvement terroriste. Mais pour les résistants français et pour la France libre, c'était considéré comme un mouvement de résistance nationale. Aujourd'hui, nous vivons dans le mensonge international, dans le déni. Pourquoi ? Parce qu'il y a une emprise, une dictature au niveau international qui s'impose par ce monde unipolaire où les Américains et leurs alliés ou leurs vassaux donc dominent le monde depuis surtout la fin de la guerre en ex-Yougoslavie et la conférence de Dayton qui a placé les États-Unis comme le gendarme du monde. Et c'est là, il y a tous ces mensonges, toute cette terminologie, on parle de prisonniers, ce ne sont pas des prisonniers, ce sont des détenus illégaux qui sont des résistants et qui sont pris en otage. Donc c'est une prise d'otage. ce sont des détenus d'une manière illégale et qui subissent des violations de leurs droits élémentaires avec un silence, un mensonge, un déni international parce que tout le monde a peur de la superpuissance américaine et derrière laquelle, comme nous le savons, la politique américaine en fait est dirigée par des lobbies. En ce qui concerne la politique étrangère, elle est essentiellement déterminée par le lobby sioniste, par le lobby pro-Israël et par l'AIPAC qui détermine les prises de position américaines au niveau international. Alors vous me dites l'ONU, je ne vais pas reprendre l'expression du général de Gaulle le machin, mais je prendrai une autre expression qui était celle de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, qui était le dernier, je dirais, secrétaire général des Nations Unies, qui a été empêché de faire son travail à cause de cette hégémonie américaine qui ne veut plus faire appliquer le droit et les principes élémentaires du droit international public, mais qui exerce une dictature sur le monde. Eh bien, l'ONU est devenue en quelque sorte, ou les fonctionnaires de l'ONU, je les appellerai les eunuques, et qui sont complètement dépourvus de pouvoir à cause de ce système unipolaire, de ce système qui est aussi instrumentalisé par les instruments, je dirais, de cette globalisation, par les médias, par les réseaux sociaux, les GAFA, et qui sont en fait entre les mains également donc des États-Unis. Je parle de Facebook, je parle de YouTube, et d'ailleurs vous êtes interdit au nom de la liberté d'expression Presse TV d'émettre sur YouTube parce que vous ne correspondez pas au schéma imposé par cette dictature internationale.
Merci donc, monsieur, monsieur Attam.
Je termine sur votre question. Aujourd'hui, il y a une situation inique et il y a des gens dont les droits sont violés tous les jours avec un silence de ce monde qui est tout petit, ce qu'on appelle la société internationale. C'est complètement faux parce que ce sont les États-Unis et quelques-uns de leurs alliés. Or, aujourd'hui, nous avons un espoir où nous assistons à l'émergence d'un nouveau monde libre, grâce d'ailleurs à la Russie, à laquelle s'associe donc l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, la Chine, l'Inde, le Pakistan et l'Iran, pour créer ce nouveau monde libre. Et c'est grâce à ce nouveau monde libre-là que nous allons d'ailleurs déclarer bientôt dans le 14 mars à Moscou, nous allons pouvoir rétablir le droit international et finir de cette situation hégémonique.
Merci, monsieur Attam. Alors, vous avez notamment parlé donc des emprisonnements illégaux, que ce soit madame Midani ou que ce soit vous, monsieur Attam. Il y a également le fait, une chose importante, c'est que Israël, donc cette entité sioniste, qui est le résultat finalement d'une politique européenne et occidentale, utilise les armes qui ne leur viennent pas de ce pays, ils leur viennent des États-Unis et notamment de l'Europe, donc d'une certaine manière, ils sont autant coupables que l'entité sioniste des tueries des enfants palestiniens, des adultes palestiniens qui meurent tous les jours. On a vraiment, je veux dire, maintenant rien n'est filtré, hein. On a vraiment des images extrêmement importantes sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, où c'est de manière continuelle, chaque jour on voit de nouveaux visages, des nouveaux larmes, des nouvelles maisons détruites. Encore ce matin, une nouvelle zone de la Palestine était détruite. Madame Midani, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur la responsabilité, et je ne parle pas seulement légale, mais matérielle, et qui ne sont pas forcément que par le biais de lobby, donc de matériel venant d'Europe et des États-Unis concernant donc, la situation palestinienne?
La responsabilité. Alors, ils sont d'abord complices. Je voudrais rappeler quand même un petit peu d'histoire. Israël a été créé par ses lobbies, par ses pays, par l'Angleterre, la France, les États-Unis. Elle a été créée sur le peuple palestinien, je peux dire, et sur la terre de Palestine, qui a été usurpée depuis par la promesse Balfour d'abord, et puis après par le mandat britannique qui a donné effectivement ces terres, aux sionistes, au mouvement sioniste dirigé par Herzl à l'époque, hein, et qui est le plus grand idéologue du sionisme, Ça, c'est en fait, depuis ce moment-là, il y a effectivement usurpation de, pas seulement du droit international, mais des droits des peuples. Hein. Parce que la Palestine, les Palestiniens sont un peuple qui ont tout à fait le droit, selon le droit international, déclaré aujourd'hui d'ailleurs, et de l'ONU aussi, de la charte de l'ONU, le droit de disposer d'eux-mêmes et de choisir leurs dirigeants et d'être indépendants, etc. Or, cette occupation, cette colonisation forcée, en fait, de la Palestine, elle continue à être soutenue par le monde occidental, dirigée par les États-Unis et tous les pays de l'OTAN, qu'elle dirige d'ailleurs aussi de cette manière, et qui continue à violer tous les droits des peuples et tous les droits nationaux, internationaux, et tous les droits de l'homme, et même les droits pendant la guerre, en fait.
Merci, donc, Madame Midanis, parce qu'on arrive à la fin du débat. Fou.
Excusez-moi, je voudrais juste une petite phrase. Il faut dire seulement, pas seulement qu'ils sont alimentés par les armes, mais surtout tous les vétos qui sont présentés alors aux Nations Unies par les Américains, qui empêchent toutes les décisions qui sont prises par une grande majorité des pays contre l'État d'Israël, qui est un État fantoche et qui est un État usurpateur. Tout ça, c'est bloqué par les vétos des États-Unis et des pays de l'OTAN.
Merci Mme Midani. Alors, parce que chacun d'entre vous, vous avez vraiment des arguments à présenter, donc j'essaie de relativiser le temps et le donner à chacun. J'ai envie de demander à Monsieur Eli Hatem, donc la question qui se pose, c'est qu'en fait on va dire que cette résolution c'était un peu la dernière chance, on peut dire, de l'ONU de prendre une résolution plus forte que d'habitude, dire non, notre organisation elle existe encore et elle a toujours sa puissance internationale, si on en avait eu avant. Là c'était du sarcasme de ma part. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a manqué sa dernière chance pour montrer aux peuples du monde, notamment aux différents continents qui ne sont pas entendus, de dire je vous entends et on essaye d'agir en conséquence?
Mais madame, n'existe plus, l'ONU n'existe plus. L'ONU, c'est une ancienne organisation comme la Société des Nations qui avait perdu toute sa légitimité avec la guerre. Les Nations Unies sont sous l'hégémonie américaine. Leur siège est à New York, ils reçoivent leur directive et la pression de Washington. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros-Ghali, qui avait dit, il voulait de moi un secrétaire, et je me suis érigé en général. Et à l'époque, Madame Madeleine Albright a tout fait pour éviter sa réélection, parce qu'il tentait d'établir le droit, l'équité internationale, et véritablement travailler pour la paix et la sécurité internationale. Aujourd'hui, ce machin, c'est ce que disait le général de Gaulle, est entre les mains des Américains et de l'OTAN, et qu'il utilise pour maquiller certaines actions. Aujourd'hui, il n'y a plus de droit international public, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai démissionné des universités où j'enseignais cette matière, parce que je ne trouvais plus d'arguments pour répondre aux questions de mes étudiants, parce qu'il n'y a, d'une part, ces principes de droit international public ne sont jamais respectés, et leurs violations également ne sont pas sanctionnées. Pourquoi ? Parce que cet organe, les Nations Unies, a perdu son poids, a perdu de son existence. Aujourd'hui, qu'est-ce qui distribue les sanctions ? Eh bien, ce sont les États-Unis, au gré, en fait, de Washington, et ils distribuent ça à tous ceux qui ne respectent pas la politique et les intérêts américains. Je vous donne un exemple, la Turquie, qui depuis un certain temps avait menacé la sécurité de l'Est de la Méditerranée, eh bien, elle n'a pas été inquiétée parce qu'elle était l'alliée des États-Unis. Et c'est ce qui se passe partout, et comme l'a très bien souligné Mme Midani, c'est qu'il y a aussi une situation unique dans cette organisation mondiale, c'est le Conseil de sécurité et le droit de veto, qui est toujours aujourd'hui utilisé par les États-Unis pour défendre leur allié principal dans la région, et puis même, je dirais, dans le monde, qui est cette entité artificielle l'entité sioniste. Et il faut peut-être rappeler une chose. Quand vous avez posé la question tout à l'heure à Madame Midani à propos donc de l'Occident, etc., cette entité, elle n'est pas fondée simplement par le mouvement sioniste qui a été créé par Herzl, mais même avant, je dirais, par le judaïsme politique, par les amants de Sion, et Herzl est venu continuer cela, et elle a été rejetée, cette théorie, par la plus grande majorité des communautés juives. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que le premier le congrès sioniste mondial s'est tenu à Bâle et non pas à Zurich. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des manifestations de l'ensemble des communautés juives contre cette organisation qui était l'OSM, qui était présidée par Theodor Herzl. Et il y a eu un profit, ils ont profité, le sionisme a profité de ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale pour responsabiliser en quelque sorte des pays occidentaux qui ont, et ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale avec le nazisme d'ailleurs, pour essayer de les convaincre de reconnaître cette entité artificielle d'une manière inique sur ce territoire qui est le territoire palestinien. Aujourd'hui, on reproche à la Russie d'intervenir en Ukraine pour aider les russophones et les Russes qui sont à l'intérieur et protéger sa sécurité, mais aucun reproche, aucune sanction à l'encontre de cette entité qui pratique une véritable extermination progressive d'un peuple sur son territoire. Vous avez parlé de 1967, il faut peut-être rappeler 1949, quand il y a eu quand même le génocide, le massacre et le premier exode de ces Palestiniens qui ont été éparpillés dans le monde arabe. C'est ça, en fait, qui est le grand crime. Où est aujourd'hui l'ONU? Où sont ces principes de droit international public? Où est l'application du droit international? Ça n'existe plus. C'est la raison pour laquelle il faut aujourd'hui, le plus tôt possible, procéder à la création d'une nouvelle organisation libre, indépendante de toutes les puissances politiques, qui puisse faire établir le droit international public et faire respecter donc et sanctionner toute violation donc de ces principes d'une manière indépendante et équitable.
Merci. Ce sont sur ces derniers propos que notre donc débat fini. J'ai essayé donc de diviser le temps de manière correcte entre nos deux experts qui aujourd'hui nous ont permis d'avoir une idée bien précise de ce qui s'est passé, de ce qui se passe en Palestine. Merci à nos experts. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir, ici à partir de la capitale iranienne Téhéran, en espérant que notre débat vous fournit toujours des informations supplémentaires par rapport au mainstream. Je vous propose une prochaine fois pour un autre débat et pour un autre sujet. À très bientôt. Au revoir.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des six derniers versets du chapitre 42 du Noble Coran, les versets 48 à 53 de la Sainte Sourate Al-Shura, la consultation. Avec la lecture de ces six versets, nous arriverons en fait à la fin de la sourate 42 du Livre Saint. À partir de notre prochain programme, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse du chapitre 43 du Noble Coran, la sainte sourate Al-Zukhruf, l'ornement. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans notre précédent programme, nous avons lu ensemble des versets de la sourate 42 du Noble Coran qui indiquaient que l'une des traditions divines consistait à guider les humains pour qu'ils arrivent eux-mêmes à distinguer le juste de l'injuste, le bien du mal. Ces actions et décisions fondées sur la liberté, l'être humain sera responsable de ce qu'il fait et de ce qu'il croit. Ceux qui choisissent la voie du mal et du péché sont donc responsables de leur choix. Car la perdition n'est pas une destinée déterminée d'avance par le Seigneur, mais le résultat des actes de chaque individu. Quand il commet du mal, Dieu le Très-Haut le prive de la lumière de la guidance et l'abandonne dans les ténèbres de l'égarement. Dans ce cas, le regret dans l'au-delà n'aura aucune utilité, car il n'existera aucun moyen pour lui de revenir en arrière pour réparer ses fautes. Les regrets ne seront utiles que lorsqu'il vit dans ce bas monde, où il aura la possibilité de réparer ses fautes. Ces versets témoignaient aussi de l'angoisse et de l'horreur qui attendent les pécheurs et les égarés dans l'autre monde après la résurrection. Les pieux qui ont cru à Dieu diront qu'au jour du jugement dernier, les pécheurs et les malfaiteurs verront le résultat de ce qu'ils ont commis pendant leur vie dans ce bas monde. En effet, ils subiront un châtiment permanent et il n'y aura plus aucun secours pour eux. Ce qui sera encore plus horrible, au-delà des châtiments physiques, c'est le regret et les propos des croyants qui les blâmeront de s'être confiés aux richesses du monde matériel et aux désirs éphémères sans se soumettre à la volonté du Seigneur. Or, dans l'autre monde et au jour du jugement dernier, rien de ces richesses et de ces puissances matérielles ne pourront les protéger. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord le verset 48 de la Sainte Sourate Al-Shura, la consultation. Puis nous vous en donnerons la traduction.
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ.
Sache que s'ils se détournent, nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde. Tu n'es chargé que de transmettre le message. Et lorsque nous faisons goûter à l'homme une miséricorde venant de nous, il en exulte. Mais si un malheur les atteint, parce que leurs mains ont perpétré, l'homme est alors très ingrat. Dans ce verset, Dieu le Très-Haut s'adresse à son noble messager, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, pour lui dire que le prophète n'a pas été chargé par le Seigneur pour protéger ou de sauvegarder la foi des gens, mais de leur transmettre uniquement le message divin. En réalité, la foi est le résultat d'une conviction intérieure et d'un choix de chaque individu. C'est par sa liberté qu'un individu décide de croire ou de ne pas croire en Dieu et de se soumettre ou non à la volonté divine, car il n'y a pas de contrainte dans la religion selon l'enseignement coranique. Voici maintenant les versets 49 et 50 de la Sainte Sourate Al-Shura, la consultation.
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
À Dieu appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de fille à qui il veut, et don de garçon à qui il veut. Ou bien il donne à la fois garçon et fille, et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Dieu le Très-Haut domine et dirige tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. C'est Dieu le Très-Haut qui donne les filles ou les garçons à qui il veut. C'est lui qui veut qu'une personne ait ou n'ait pas d'enfant. Dieu est la source de la clémence et il donne ses bienfaits à ses créatures. Les enfants sont pour leurs enfants les dons du ciel et les grands bienfaits divins. Il ne faut jamais que les parents se comportent de manière discriminatoire envers leurs enfants, car c'est une fille ou un garçon. Le Saint-Coran s'oppose ainsi à un comportement et aux traditions ancestrales qui persistent même jusqu'à nos jours, selon lesquelles les gens imposent une discrimination fondée sur le sexe pour favoriser l'homme par rapport à la femme. Écoutons enfin les versets 51 à 53 de la sourate 42 du noble Coran. Il n'a pas été donné à un mortel que Dieu lui parle autrement que par révélation, ou de derrière un voile, ou qu'il lui envoie un messager, un ange, qui révèle, par sa permission, ce que Dieu veut. Il est sublime et sage. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en réalité, tu guides vers un chemin droit, le chemin de Dieu, à qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Oui, c'est à Dieu que s'acheminent les choses. La sourate Al-Shura, la consultation, commence par la question de la prophétie et elle prend fin aussi par la question de la prophétie. Ces derniers versets soulignent que les mortels ne peuvent pas parler directement à leur Créateur. C'est pourquoi Dieu a révélé ses messagers pour apporter aux gens le message divin. Ainsi, Dieu a envoyé son dernier messager, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, pour apporter aux humains le message de Dieu et le livre saint, le Coran. Chers auditeurs, ici s'achève la voix de la lumière d'aujourd'hui. Nous avons terminé dans ce programme la lecture et l'exégèse du chapitre 42 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Shura, la consultation. À partir du prochain programme, nous commencerons la lecture du chapitre 43 du Livre Saint, la Sainte Sourate Al-Zuhruf, l'ornement. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.
Thank you.